Effectivement, il va être question de langue et de patois. Et avant de formuler la question qui va nous occuper pour les 45 prochaines minutes, je voudrais commencer avec une citation de Mistral que je vous lirai en français. Du coup, et donc Mistral, en 1906, vers la fin de sa vie, il avait eu le prix Nobel en 1903. Les Français avaient fait en sorte, enfin, le gouvernement français s'était opposé à ce qu'il l'ait en 1901. C'était pour le tout premier prix Nobel. En 1903, il l'avait partagé avec Sully Prudhomme, je crois. Et bref, dans ses mémoires, il écrit, et ici même, à ce moment-là, j'avais 21 ans, le pied sur le Lindau, comme on dit, le perron de mon mât paternel, avec les yeux tournés vers les Alpilles, entre moi et avec moi-même, je pris la résolution, premièrement, de relever... de faire revivre en Provence le sentiment de race que je voyais se désagréger sous l'éducation contre nature et fausse toutes les écoles. Deuxièmement, de promouvoir cette renaissance par la restauration de la langue naturelle du pays à laquelle toutes les écoles font une guerre à mort. Et troisièmement, de rendre la vogue au provençal par la force et la flamme de la divine poésie. Alors, on est là dans un texte typique des années 50. Mistral avait 21 ans en 1951. Et il va fonder le Félibrige, donc qui va être un organisme de promotion de la langue d'oc, sous le midi de la France, en 1854. Les années 1850, c'est les grandes années du printemps des nations qu'on voit ici représentées. dans une peinture classique. Et ça correspond non seulement donc à ce printemps des nations, mais aussi à des transformations socio-économiques majeures, comme notamment l'arrivée du chemin de fer en Provence. C'est dans les années 1850. Changement majeur, puisque c'est aussi ce qui va déterminer le fait que la ligne de chemin de fer Paris-Lyon-Marseille ne passe pas par Aix, les bourgeois d'Aix ayant estimé que ça n'avait pas d'avenir. Voilà, donc tout un tas de choses qui se mettent en place à ce moment-là et tout un tas de transformations majeures à ce moment-là. À ce moment-là, l'immense majorité de la population du Sud, alors je n'ai pas trouvé de chiffre exact, mais on a 36 millions d'habitants en France en 1850, dont on peut estimer qu'à peu près un tiers vit dans l'espace occitanophone, et l'immense majorité, pour ne pas dire toute la population, est occitanophone à ce moment-là. Aujourd'hui, les enquêtes font apparaître un taux d'occitanophonie d'à peu près, voilà ma carte de la population française, un taux d'occitanophonie aujourd'hui d'à peu près 7% pour la région Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Et pour la Provence, de fait, on n'en a aucune idée. Donc, ce à quoi je veux arriver par là, c'est à dire qu'on a manifestement un échec. C'est-à-dire que même selon le projet lui-même mis en place, enfin énoncé par Mistral, ça a échoué. Et la question qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce qu'on est passé de 15-20 millions d'occitanophones à quasiment plus aucun aujourd'hui, au-delà de l'explication traditionnelle en termes de répression linguistique. Il ne s'agit absolument pas de nier le fait qu'il y a eu une représentation linguistique, que les patois, de manière générale, étaient interdits dans les écoles, de manière générale, après les années 1880. Mais je pense que ça n'explique pas tout et qu'on peut trouver dans la politique de la langue elle-même des explications. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi Mistral, qui se lamentait sur la fin de sa vie, « Ah, si seulement il voulait m'écouter, si seulement il voulait me suivre », pourquoi ils ne l'ont pas suivi? Parce que c'est pas comme s'il n'y avait pas eu un contre-discours, une contre-proposition à la proposition centraliste française. Visiblement, personne ne l'a suivi, ou très très peu. En fait, dans le mouvement occitan lui-même, qui a pu compter peut-être jusqu'à 20-30 000 personnes à certains moments, en fait, on a très très peu de locuteurs natifs qui s'engagent sur ces lois. Donc voilà, en interrogeant les catégories de langue et de patois, c'est un petit peu cette question-là que j'essaye de reposer, d'essayer de comprendre pourquoi le mouvement occitan échoue à convaincre, à créer un affect commun, du coup susceptible de transformer les rapports de force. Avec cette question en arrière-plan, et si le mouvement occitan s'y était mal pris? Et si, quand on parle de langue, de patois, etc., les locuteurs occitans et les militants ne parlaient juste pas de la même chose quand ils parlent de langue? Ils ont l'impression de parler justement de la même chose. Et si ce n'était pas qu'une question de point de vue, langue versus patois, sur un même objet, mais autre chose? Donc voilà, pour répondre à ces questions, j'aurai un plan en trois parties. Je pense que je suis dans le lieu idéal pour suivre cette tripartition. Une partie, disons, méthodologique et sur les données dont je vais essayer de traiter. Une deuxième partie sur justement la question ontologique autour de langue et patois, avec une hésitation sur le terme ontologie, dont je vous parlerai. Et essayer ensuite d'aller chercher dans des débats historiques des preuves à ce que j'essaye d'avancer. Alors, la difficulté que je vais soulever immédiatement, c'est que je parle de quelque chose qui n'existe quasiment plus, c'est-à-dire d'un monde patoisant alors, voilà, je pense que Félix, tu auras sans doute d'autres points de vue sur la question, mais donc d'un monde qui n'existe quasiment plus, qui, dans le terrain que moi j'ai fait en Provence depuis les années 2005 jusqu'à, en gros, juste avant le Covid, a été à la fois très documenté et très peu documenté. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'enquêtes dialectologiques qui vont s'intéresser à la langue, mais du point de vue dialectologique, c'est-à-dire d'un point de vue qui considère la langue d'une manière très moderne, et je vais revenir sur ce terme. Mais c'est-à-dire qu'on ne regarde pas les situations dites patoisantes en se posant la question: qu'est-ce qu'on dit quand on dit qu'on parle patois? Et qu'est-ce qu'on dit quand on dit on ne parle pas la langue mais qu'on parle le patois? Donc vous voyez, un type d'exemple d'énoncé qui m'intéresse, c'est celui-ci. Là, c'était pendant mon terrain de thèse, donc pendant que j'étais ici à ICAR, et je parlais avec cette femme donc, qui avait à l'époque 87 ans, et on a eu une très longue conversation en moi, ce que j'appelais occitan, ce qu'elle appelait patois, et ça faisait 11 ans à peu près qu'elle n'avait pas parlé dans cette langue. Et le but de ma question, j'essayais de montrer que Philippe Blanchet se trompait. J'essayais de montrer, alors pour résumer très rapidement, la position de Philippe Blanchet, c'est qu'il existerait une langue occitane, pardon, justement au contraire, une langue provençale distincte d'une langue occitane, et ou du languedocien, et que ça serait manifesté dans le fait que en Provence, les gens disent qu'ils parlent provençal, ils disent pas qu'ils parlent occitan. Sauf que de fait, la plupart des gens disent qu'ils parlent patois, ils disent pas qu'ils parlent occitan ou provençal. Donc tout bêtement, j'essayais de sournoisement poser des questions, et dans tel village vous comprenez comment ils parlent, et dans tel village, etc. Sauf que ça marchait absolument pas, c'est-à-dire que effectivement, il y a à partir d'une certaine distance, elle me dit là je sais pas. Bon, là du coup, je commence à me dire, ah, Philippe Blanchet a peut-être raison, parce que tous les endroits que je ne sais pas, c'était justement de l'autre côté du Rhône. Et là, tout d'un coup, elle me dit, mais Montpellier, je comprends très bien. Mais même Barcelone, je comprends très bien. Je suis allé à Barcelone. À Barcelone, c'est le même patois, ils parlent comme nous. Comme nous. Et donc. Là, ça semblait quand même invalider justement cette idée qu'il y aurait deux langues différentes auxquelles les gens se référeraient de manière exclusive et qu'ils ne comprendraient éventuellement pas. Bref, je suis resté avec cet énoncé assez longtemps. On pourrait l'expliquer aussi, du coup, le fait que... on pourrait expliquer cet énoncé aussi d'un point de vue d'une sociolinguistique occitane en termes de conflits et de positions de domination-subordination, avec justement l'idée que l'idée de la perte de l'unicité ou de l'uniformité linguistique d'un espace linguistiquement homogène et que justement la diglossie expliquerait le fait que elle n'a plus de représentation spatiale de l'espace occitanophone, surtout le sud de la France. Mais il y a des problèmes avec ça, notamment le fait que, alors, je sais qu'on dit souvent, on cite souvent l'instruction du ministre de l'instruction publique, dans les, je crois que c'est 25, qui dit il faut faire en sorte que les gens ne se comprennent plus de village en village. Mais ça, c'est la Bretagne. Pour Lafont est assez clair là-dessus. Pour le Midi occitanophone, c'est pas le côté micro-local du patois qui pose problème. C'est le côté de classe. Le côté spatial n'est pas en soi un problème, et je suis pas sûr qu'il y ait eu de tentative de faire en sorte qu'on se comprenne pas d'un village à l'autre. C'est vraiment une attaque de classe. Et de fait, Madame Robert, on va l'appeler comme ça, ne parle pas de micro-local, au contraire, puisqu'elle nous parle de Barcelone. Donc, de quoi est-ce qu'elle nous parle? Et j'ai un peu l'impression, enfin, j'en suis arrivé à cette conclusion, qu'elle nous parle d'un rapport à l'espace qui n'est pas celui qu'on a l'habitude d'avoir quand on parle de langue, mais qui est un rapport à l'espace qui est intimement lié à son expérience personnelle. C'est-à-dire qu'en fait, elle me disait, bah, moi je comprends le patois des endroits que je connais. Entre les deux, ben, je sais pas, puisque j'y suis pas allé. Et donc, on a affaire ici à un type de communauté imaginée très différent de celui que permet l'abstraction de langue, qui nous permet d'aller dans un endroit dans l'espace français où on n'est jamais allé, de descendre du train et de se dire, tiens, je vais parler français, on va me comprendre. Donc, on a là peut-être un indice de ce monde du patois qu'on va, dans lequel on va entrer petit à petit. Voilà, alors, les données sur lesquelles je m'appuie sont un peu toutes de cette nature. Je vais en montrer d'autres, mais ce qu'elles ont en commun, c'est d'être des petits bouts récoltés par tous les gens qui ont travaillé dans ces contextes, sans que rien, à ma connaissance, en soit fait, parce que généralement, ce n'est pas ce qu'on cherche, et que ça rentre assez peu, il me semble, dans notre propre conception de la langue. Ce sont, comme le dit Walter Benjamin, des débris du terrain. Mais moi, c'est ces débris qui me hantent depuis maintenant des années, comme Laura dont parle Walter Benjamin. Je cite ici un extrait du livre des passages, très travaillé par Patrick Boucheron notamment. La trace est l'apparition d'une proximité, quelque lointain que puisse être celui qui l'a laissée. Ce qui l'a laissé, pardon. L'aura est l'apparition d'un lointain, quelque proche que puisse être ce qui l'évoque. Avec la trace, nous emparons de la chose. Avec l'aura, c'est elle qui se rend maîtresse de nous. Et donc, pour se défaire de cette aura du passé, de cette emprise que ces énoncés ont sur moi, j'ai essayé de les transformer, de les saisir, pour les saisir comme trace. Mais alors, comme trace de quoi? Et ce que je propose, c'est donc de les saisir comme traces d'autres mondes linguistiques, et je vais évidemment revenir sur ce que j'entends par là. Alors, de quoi je parle? Et là, on passe à ma deuxième partie, patois, langue et ontologie. Alors, de quoi je parle? Voilà cinq énoncés ici, et je vais commencer par le premier, qui est le plus répandu, qui est celui où quelqu'un qui estime parler patois va vous dire, mais toi tu parles le provençal ou l'occitan. Moi, c'est pas du provençal ou de l'occitan, c'est du patois. Donc cette distinction qui est là pour le coup, je pense, assez universelle entre la langue et le patois du point de vue des patoisans. Et c'est celle qui est généralement expliquée en termes de diglossie par l'école occitane de sociolinguistique. Mais ce qui m'intrigue, c'est que cette classe d'énoncés, je vais revenir sur les autres, mais on la trouve un petit peu partout, en fait, autour du monde. Là, j'ai une longue citation de Michael Silverstein, mais qui évoque son terrain en Australie, et enfin, qu'il évoque bien plus tard, puisque c'est un terrain réalisé dans les années 60. Et on peut prendre le dernier paragraphe, donc, où il évoque ses amis aborigènes, donc les Warora, qui n'avaient aucune idée de ce dont il parlait quand, au début, on utilisait une forme d'anglais pidgin appelé créole pour le contact, et il n'avait aucune idée de ce dont je parlais quand je disais « qu'est-ce que ceci veut dire ?» ou « comment vous dites X ou Y ?» Et en leur donnant, ou alors quand je leur donnais un mot de pidgin, on leur disait, en leur demandant « comment vous diriez ça dans votre langue ?» Plus récemment, un article de Ian David Hawke, justement, explore d'un point de vue ontologique des pratiques langagières chez les Aché en Amérique du Sud, en Amazonie. Et donc il me dit pour les Aché, justement, le Jawu faisait partie d'habitudes corporelles et c'était absolument pas conceptualisé en termes de langue. Et ces habitudes parlées donc n'étaient pas considérées en termes de langue et certainement pas dans les termes d'une langue, mais non plus comme un esprit. Ou un type de force, et certainement pas comme un objet matériel. Donc je reviens à mes énoncés patoisants. Donc, parce qu'il me semble que le cas dont je parle est un cas de quelque chose de plus large, qui ne se limite pas à un monde disparu au sud de la France. Et donc ce que je propose, c'est de prendre au sens propre ce que nous disent les patoisants pour voir ce que ça donne. Alors, les exemples 2 et 3, je les trouve assez intéressants parce qu'on a là les deux derniers locuteurs à Tulette, dans la Drôme. C'est des gens qui n'ont plus d'interlocuteurs. Il y en a un qui a autour de 70 ans, l'autre qui a 98 ans, qui n'ont plus d'interlocuteurs. Et je trouve assez fascinant le fait que qui vous disent « Oui, bah, les jeunes, ils parlent plus trop le patois aujourd'hui, ça se perd un peu. » Mais non, ça se perd pas un peu, plus personne ne le parle. C'est ça qui est fabuleux. Et moi, là aussi, ça m'a aussi fait penser à un terrain que j'avais fait dans les Shetland, où on pouvait me dire, mais le dialecte shetlandais, toi, tu viens de l'extérieur, tu l'apprendras jamais. Par contre, les petits, qui clairement parlaient anglais, eux, en fait, ils parlent shetlandais parce qu'ils sont shetlandais. Mais enfin, quelque chose de cet ordre-là. Donc, bon. C'est assez caractéristique du fait que le changement linguistique est peu thématisé au point que je me suis demandé s'il avait été vraiment remarqué. Bon, je suppose qu'il est remarqué, mais certainement pas de la manière dont moi je le remarquais. Le 4, alors le 4, c'est le même interlocuteur que le 2. Fernand, un homme né en 1920, que je rencontre grâce à Jean-Paul, énoncé numéro 3, et qui me dit « Viens, on va aller voir Fernand, lui et sa femme, ils se parlent que en patois. » Évidemment, ils ne se parlaient absolument pas en patois, puisque sa femme, née la même année, de fait, ne parlait déjà plus patois, ses parents lui avaient parlé français. Donc elle le comprenait, voilà. Il y avait leur fils qui était là aussi, qui du coup aussi avait un certain âge, mais qui, lui, ne parlait pas patois, puisque ses parents ne lui avaient jamais intéressé, ne lui avaient jamais parlé en patois. De fait, ça intéressait assez peu Fernand de parler ni en patois avec moi, ni de patois d'ailleurs. Et à 11h30, il était surtout intéressé de me dire « Bon, on a assez parlé, maintenant c'est l'heure du pastis. » Mais ce qui l'intéressait surtout, c'était l'agriculture. C'était les liens entre le patois et les changements agricoles. Ça, là, il pouvait en parler. Et c'est là qu'il me dit cette phrase, qui elle aussi, comme une sorte d'aura de monde perdu, m'a un petit peu hanté. Le cheval, lui, il parlait pas français. Et en fait, c'est là pour m'expliquer que c'est à ce moment-là qu'on a parlé français. En fait, c'est la mécanisation. La mécanisation en Provence, c'est les années 50-60. Et ça correspond bien, de fait, à la disparition progressive de la génération d'avant 14. Et je pense qu'en sociolinguistique, la guerre de 14 est quelque chose qui n'est pas assez thématisé. Je pense qu'on n'a pas vraiment mesure d'à quel point linguistiquement les choses ont changé. Pas que linguistiquement d'ailleurs, évidemment, mais que c'est un marqueur sociolinguistique extrêmement important. Mais donc, c'est pas de langue dont me parle Fernand, ça, il s'en fiche. Mais c'est bien d'économie politique, c'est-à-dire d'un monde dans lequel le patois faisait sens. Et ce que j'entends par monde, que j'utilise depuis tout à l'heure, ce n'est pas une sorte de catégorie romantique ou imaginaire, mais un ensemble de relations sociales inscrites dans des conditions matérielles et économiques précises, celles d'une économie, d'une agriculture, pardon, employant une main-d'œuvre abondante, des familles vivant nombreuses sous les mêmes toits, et d'un rapport aux animaux que la mécanisation altère radicalement. Et là, juste un très bref aparté, on dit souvent que le patois, c'est la langue pour les cochons, les bêtes, selon les endroits, et c'est généralement interprété comme un signe d'infériorisation. C'est sans doute le cas. Mais je pense que ça nous dit aussi autre chose sur un mode d'organisation sociale et matérielle, et sur le type d'interlocuteur qu'on pouvait avoir dans ce monde du patois. Et enfin, l'exemple numéro 5. Lui recueilli lors d'une enquête que je faisais avec Michel Baird pour un travail qu'on avait fait pour la région Rhône-Alpes, qui a donné lieu au projet, au rapport Fora sur Franco-Provençal et Occitan Rhône-Alpes. Et donc là, on est dans les monts du Lyonnais et parle avec une femme qui fait partie d'une association patoisante avec son mari. Tous les deux parlent patois entre eux et ils vivent sur la ferme familiale avec leur fille, qui est mariée et qui a une petite fille qui a 6 mois à l'époque. Donc là, ces conditions apparemment idéales pour nous. Et c'est là que je lui demande, mais alors vous allez lui parler patois, la petite? Il va, bah non, je vais pas lui parler patois, elle comprendrait pas. Et longtemps, je me suis dit, ça y est, c'est fini, les gens ne comprennent plus comment on transmet une langue à quelqu'un. Ce qui était faire, à mon avis, une autocritique, peu de cas de son intelligence. Et ce que je pense qu'elle voulait dire en relisant cette donnée, cet énoncé au prisme des autres, c'est que cet enfant n'appartient plus à ce monde du patois. Et donc, qu'est-ce qu'elle ne comprendrait pas? Bon, je pense que cette femme n'est plus là pour lui demander, mais ce sera intéressant de se poser la question. Ce qu'on a donc, ce qui commence, j'espère, à émerger maintenant, c'est une division entre le monde de la langue et le monde du patois. Et au-delà, entre la langue et le patois, dont les énoncés que j'ai donnés seraient, peut-être, si j'ai raison, une trace. Et je vais donner un dernier exemple ici qu'on trouve chez Lafont et Gardy, exemple assez paradigmatique, pour bien insister sur le fait que la distinction entre langue et patois, que cette distinction entre langue et patois n'est pas juste entre contexte d'utilisation. Voilà, donc chose que, voilà, il faut répondre en patois, excusez-moi de ne pas bien parler l'occitan. Toujours cette distinction entre monde de la langue et monde du patois. Donc, c'est bien le signe qu'il y a quelque chose dans la langue qui est de l'ordre qui est du même ordre que l'incommensurabilité des mondes qu'ils sont supposés indexer, que patois et langue sont supposés indexer. Et c'est là que j'en arrive à l'ontologie. Je ne suis pas extrêmement convaincu de l'outil, mais vous allez voir, il a un certain mérite. Donc là, je vais m'inscrire, disons, dans le tournant ontologique tel qu'il est représenté par Philippe Descola, mais aussi sous un autre mode, pardon, par Viveiro de Castro, ou encore sous l'angle de Bruno Latour, avec évidemment des approches très très différentes entre eux tous. Mais disons que si on se place dans une perspective descolienne, en fait, il s'agit de s'inscrire contre, dans une critique de la notion de culture, et notamment du tournant linguistique en anthropologie dans les années, au début des années 80, avec James Clifford notamment. Cette idée qu'il existerait un monde commun à tout le monde, et que la culture, c'est juste différents points de vue sur ce monde commun. Là, l'idée, c'est de dire qu'il n'y a pas de monde commun, qu'il ne s'agit pas juste d'avoir des perspectives différentes, de voir différemment un monde commun, mais au contraire de voir des choses différentes. Donc là, je vous cite une citation de Holbrad et Pedersen dans leur livre « The Ontological Turn ». Je la traduis. Donc les anthropologues, pour que les anthropologues imaginent leur tâche comme celle d'expliquer pourquoi les gens font ce qu'ils font, ils doivent d'abord supposer qu'ils comprennent ce que ces gens font. Le tournant ontologique implique souvent de montrer que ces questions en termes de pourquoi, d'explication, sont fondées sur une mauvaise conception de ce quoi, c'est-à-dire de la conceptualisation de nos questions. D'ailleurs, la question de, par exemple, pourquoi certaines personnes croient aux fantômes ou croient aux nations, est posée précisément parce que la question de qu'est-ce qu'une nation ou qu'est-ce qu'un fantôme n'a peut-être pas été explorée de manière satisfaisante. Le tournant ontologique n'est donc pas une question de voir différemment, en d'autres mots, c'est avant tout une question de voir différentes choses. Voilà. Donc, voilà pour une vision une présentation très très rapide du tournant ontologique. Et mon idée, c'est qu'on aurait peut-être deux dynamiques linguistiques ontologiques distinctes, celle du patois et celle de la langue. Et que, bah, en ce sens, c'est en ce sens qu'un patois ne serait pas une langue. Là, j'ai immédiatement deux écueils qui se présentent à nous. D'abord, l'écueil Sapir-Whorf, qui serait de dire, bah, en fait, c'est la distinction qui est portée par la langue qui ouvrirait sur des mondes distincts. Voilà, on est dans Avatar, qui n'est pas exactement ma perspective. L'autre écueil, c'est celui de la langue reflet, qui serait de dire, bah, en fait, qu'on a deux mondes distincts qui se reflèteraient dans différentes manières d'organiser le langage. Ce qui m'intéresse, c'est une question pratique. Donc, pourquoi le mouvement occitan a échoué, a entraîné avec lui l'immense masse des occitanophones? Et donc, et il me semble qu'entre langue et patois, donc en laissant de côté ces deux écueils, et en marchant sur une sorte de ligne de crête entre les deux, on a bien, entre langue et patois, deux logiques distinctes de la pratique, que Bourdieu appellerait logique pratique et logique scolastique. Bon, logique scolastique est aussi une logique de la pratique, mais bon, c'est une manière d'aller vite. Et il me semble qu'on a bien affaire à deux choses distinctes, deux mondes distincts, qui ne sont ni un simple reflet du réel, ni un prisme linguistique qui déterminerait le réel, mais à des pratiques prises au sein, à des ensembles de pratiques distinctes, prises au sein d'autres pratiques économiques, familiales, techniques, et qui, prises ensemble, ne sont pas des manières différentes de voir la même chose, mais deux réalités différentes qui occupent des réalités distinctes. Alors, évidemment, Madame Robert comme Fernand parlait aussi français, donc immédiatement on se pose la question de mais comment ils font pour occuper deux mondes à la fois? Bon, sauf que, alors, c'est évidemment un problème, mais il me semble qu'il parle d'un monde qui a disparu, en fait, et de deux mondes qui ont coexisté. Je vais essayer de les réconcilier dans ma dernière partie. Mais le truc important ici, la chose importante, c'est que quand les militants allaient voir les patoisans pour leur dire que, en fait, ce que eux parlaient, ça n'était pas du patois, mais c'était une langue, ils se trompaient. C'est-à-dire que c'était prendre les mots comme nomenclature et penser qu'on pouvait simplement, que la réalité qu'il y avait derrière les mots était la même, il suffisait de changer le mot pour changer la perspective sur une chose qui serait la même. Or, je pense que les patoisans voyaient très bien que ce n'était pas la même chose, pour le coup, puisqu'ils étaient, ceux que j'ai rencontrés en tout cas, à la fois dans le monde de la langue, qu'on leur avait inculqué à l'école, et dans le monde du patois. Donc, il me semble que c'est de l'occitan, c'est pas du patois, qui a été le mantra du mouvement occitan pendant 150 ans, 170 ans. C'est en partie ce qui a fait que ça n'a pas marché. C'est-à-dire que il y a eu un énorme malentendu. Les militants pensaient qu'ils parlaient de la même chose, alors que les locuteurs voyaient très bien qu'ils ne parlaient pas de la même chose. Bref, on a là, il me semble, un effet pervers de l'universalisme vu comme universalisation de l'expérience individuelle. Et il me semble que cet aveuglement ontologique est donc une des raisons de l'échec militant. Du coup, si j'ai raison, on doit pouvoir trouver trace de ce conflit entre langue et patois, entre ces mondes, C'est ça que on essaie d'explorer dans cette dernière partie, avec ici une des premières photos du vieux port de Marseille, avec des bateaux qui n'avaient pas tout à fait la même taille que ceux d'aujourd'hui, dans le port, dans le vieux port. Donc, nous voilà maintenant à Marseille, dans la deuxième moitié du 19e siècle. Il va être question d'un certain Gaston Jourdan, maire radical socialiste de Carcassonne, emprisonné pour officiellement avoir conspiré contre l'Empire. Donc quelqu'un de très bien que vous avez ici. Et Gaston Jourdan écrit dans son Histoire du Félibrige, il était félibre aussi en même temps, et il écrit dans son Histoire du Félibrige en 1897 à propos de deux réunions qui s'étaient tenues en 1852-53 à Aix et Marseille, où il était question d'orthographe. Il écrit: c'est dans ces deux réunions qu'on vit s'affirmer l'idée d'une croisade destinée à épurer la langue provençale. Quelques poètes furent réfractaires à cette idée, n'approuvant pas les réformes orthographiques et linguistiques, dont le groupe de Roumanie, Mistral si vous voulez, s'était fait l'apôtre. C'est ainsi qu'à Marseille, notamment, persista longtemps une école qui repoussait la manière d'écrire des félibres. Dès son origine, le félibrige, c'est-à-dire le provençal épuré, se heurtait donc aux patois segeires, aux partisans des patois qui ont la prétention d'écrire comme on parle. Cette question des patoisans, peu importante d'ailleurs dans l'ensemble du mouvement, effectivement, et pour cause, n'est pas près de finir, car il est de toute nécessité qu'au fur et à mesure de l'extension du félibrige, les partisans de la nouvelle grammaire entrent en discussion avec ceux qui prétendent représenter le sous-dialecte local. Et vous voyez que notre ami Gaston Jourdan fait, à mon avis, une erreur fatidique ici, en repoussant les patois segeires dans la simple représentation du micro local, et pas dans la représentation d'un autre monde linguistique. C'est là, je pense, un nœud que le Félibrige n'a jamais compris. Le Félibrige, autour de Mistral, il est embarqué dans une entreprise très française, pour le coup. Mais il n'est pas le seul, en fait. Tous les mouvements nationaux, à l'époque, sont embarqués dans cette entreprise. Vous avez ici un poème du jeune Mistral. Alors, Mistral, pour vous le situer, c'est un paysan aisé du sud, enfin, d'à côté d'Arles, qui, dans ses études, rencontre justement Roumanie, qui se met à faire des vers en provençal, et puis qui va ensuite donc créer ce mouvement, un mouvement bourgeois, de fait. Et donc, il écrit à propos de la langue provençale: nous avons trouvé dans les granges, nous l'avons trouvé dans les granges, vêtu avec un mauvais vêtement, la langue provençale. En emmenant paître le troupeau, la chaleur avait bruni sa peau. La pauvre n'avait que ses longs cheveux pour couvrir ses épaules. Et quelques jeunes hommes, en se promenant par là, de la voir si belle, se sentirent émus, qu'ils soient donc les bienvenus, car ils l'ont vêtue comme elle se devait, comme une demoiselle. Et là, on a quelque chose d'assez typique, c'est-à-dire la fabrication d'un sujet slash objet langue, avec toutes ces caractéristiques de la langue au sens moderne, c'est-à-dire quelque chose de décontextualisable, d'autonome et de descriptible, et qu'on va pouvoir habiller avec une jolie orthographe. Donc, là, on est vraiment dans la langue moderne. C'est un calque du français ou de l'anglais, de l'allemand, prendre les langues de l'époque. De l'autre côté, revenons à Marseille. On a Victor Gélu, autre petit bourgeois, en fait, qui échoue un peu dans toutes ces entreprises commerciales dans sa vie, qui a une vie qui est pas forcément facile, mais dont les journaux de l'époque s'accordent à dire qu'il est un extrêmement bon ethnographe. C'est-à-dire qu'il décrit très bien ces quartiers populaires de Marseille. Victor Gélu, l'auteur d'un roman notamment, il est surtout l'auteur de chansons, d'un recueil de chansons provençales qu'il a composé lui-même, en fait, hein, publié d'abord en 1840, puis republié en 1856. Et les patois Sejail, c'est notamment lui et les gens qui sont autour de lui. Et alors, il a non seulement écrit des chansons qui ont été chantées par le peuple marseillais très longtemps, en fait. On trouve encore des gens qui connaissent ces chansons dans les années 60, 70, peut-être encore maintenant, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que nous dit j'ai lu dans ses introductions? Il nous dit que le patois est avant tout une pratique et pas une langue. Donc, un certain nombre de citations. La première ici, j'ai pris mes héros au dernier degré de l'échelle sociale parce que notre patois ne pouvait être placé convenablement que dans leur bouche, parce qu'il exclut toute idée de grâce et ne peut bien rendre que la force, parce que ce dialecte est brutal et impérieux comme le vent du nord-ouest qui lui a donné naissance. Alors, effectivement, on est là dans une idéologie qui induit un lien iconique entre les locuteurs et le patois. C'est bien parce qu'ils sont en bas de l'échelle sociale que ce patois est lui aussi en bas de l'échelle sociale. Mais ce qui est important, c'est que ce patois, il est placé dans leur bouche. Il n'est pas dans un livre, contrairement à la belle langue provençale des faits libres. Et donc, s'il est dans leur bouche, c'est qu'il ne peut pas exister hors de leur bouche. Il ne peut pas exister tout seul. Il ne peut pas être décontextualisé. Et là, on est vraiment dans quelque chose qui n'est pas la langue telle qu'elle est définie par Locke et autres dans les idéologies modernes de la langue. Donc là, toujours dans la même préface, il écrit encore: D'abord, mes héros sont marseillais avant tout. Ils ne pensent point en français pour s'exprimer en provençal. Ils parlent le patois de Marseille et non la langue, si langue il y a, telle qu'elle doit s'écrire. Leur dialecte est celui des rues, des quais et des halles. Il n'y a rien à démêler, ni avec le dictionnaire de l'Académie, ni avec la grammaire provençale. Pardon. Au reste, cette grammaire, si elle existe, ou même si elle a jamais existé, que peut-elle être aujourd'hui, sinon une introuvable rareté bibliographique? Là, on est déjà dans une sorte de débat qui prédate l'émergence du félibrisme, mais il écrit déjà contre ceux qui voudraient faire du provençal ou de l'occitan ou de la Languedoc une langue. Et donc, c'est pas d'une opposition provençale-français qu'il s'agit ici, mais bien d'une opposition entre deux façons irréconciliables, à mon avis, de concevoir le langage. Et pour continuer comme ça, toujours dans la préface de 1840, si en dépit des puristes, j'ai, dans plusieurs passages de mes compositions, sauté à pieds joints sur toutes les règles de la grammaire, de la prosodie et de l'orthographe provençale, c'est que l'étude m'a appris que tel terme et telle phrase de l'idiome local, écrits suivant la règle, perdraient la moitié de leur valeur ou ne signifieraient plus rien. Là, je n'ai pas le temps de rentrer dans une analyse de cette notion de valeur, mais il me semble qu'on a quand même la description, peut-être en tout cas, de marchés de sens, au sens où l'entendait la praxématique, c'est-à-dire de deux milieux socio-ethno-historiques où le rapport des formes des praxèmes à la production du sens est réglé par un ensemble de conventions tendant à l'univocité et où se produit la valeur linguistique. Mais là, la force praxématique, il me semble qu'elle n'est pas dans le lexique, mais dans la morphosyntaxe, dans ce que j'ai lu appelle les règles de grammaire, de la prosodie, de l'orthographe, enfin, et de l'orthographe provençale, mais il me semble ici plutôt les règles de grammaire. Bref, donc on aurait deux ensembles qui sont non seulement qui décrivent des mondes, c'est-à-dire donc, des habitudes, des habitus. Différents, mais aussi des règles distinctes de production du sens. Et là, je vous ai mis ce sera ma dernière diapo et je vais conclure, un extrait de la préface à la deuxième édition, ici 1856. En 1856, c'est fini, il a perdu face au Félibrige, qui s'est imposé dans les années 50, enfin, disons, il est en train de perdre. Mais en même temps, lui, son pari, il n'a pas perdu sur l'avenir de la langue, puisqu'il a aucune illusion sur le fait que le patois ne sera plus parlé dans quelques générations, et c'est pas son problème. Mais il a perdu face aux tenants de la langue, et il a perdu dans sa conception du patois. Et donc il parle là de cet instrument, donc le patois, qui n'a rien de commun avec le fouillis de phrases métisses dont le public est rassasié. Il offre une puissance inouïe pour rendre avec vigueur et originalité les sensations, les besoins et les désirs de notre classe tout à fait inférieure, la seule à présent qui se serve encore de notre dialecte primitif et qui lui est conservée toute sa sauvage pureté. Et on sait que les faits libres, dans leur œuvre lexicographique, vont enrichir la langue à la fois de néologismes, mais aussi d'emprunts à toutes sortes de dialectes, justement pour fabriquer une langue qui va être une langue commune à l'ensemble du sud de la France. Voilà, donc il me semble que là, il s'adresse à une sorte de public lettré et son fouillis de phrases métisses qui l'oppose à cette classe, qu'il appelle donc tout à fait inférieure. Et je conclurai en disant que c'est là que c'est ça qui est tout à fait fascinant, il me semble. Parce qu'on comprend là que les renaissantistes, que le Félibrige n'a en fait jamais écrit pour le peuple de Gélu. Contrairement à ce qu'ils ont pu écrire. Je sais pas si vous avez lu Mistral, Mireille. Les premiers vers de Mireille, il écrit Car cantant queper vautre et pastre et gens d'Imas, car nous ne chantons que pour vous, ô pâtres et gens d'Emma. Mais dans l'idée de Mistral, on écrit, on chante pour vous. Mais parce que vous devez nous suivre. Et il me semble que là, on a quelque chose qu'on va retrouver chez Zola, par exemple, dans Le Ventre de Paris, et qui renvoie non pas à une opposition entre disons, provençal et français, mais à différents mondes linguistiques qui vont disparaître dans le nord de la France comme dans le sud, avec l'introduction de l'école obligatoire. Et que la langue des gens de Gélu est plus proche de celle des marchands des Halles de Zola que, et au contraire, le provençal de Mistral est lui très proche dans sa conception idéologique du français de Paris. Et d'ailleurs, quand Mistral écrit, soi-disant pour les pastres et les gens d'Imas, il écrit avec la traduction en français à côté, et la traduction, elle est sur la belle page, celle de droite. Bref, il me semble qu'on a quelque chose qui est similaire dans le sud et dans le nord de la France, c'est-à-dire un passage d'un état de langue prémoderne, disons, pour dire de manière sans doute très peu satisfaisante, à un état moderne, sauf que ça s'est traduit dans le sud par un changement que les linguistes appellent un changement de langue, ce qui ne s'est pas produit dans le Nord, puisque le Nord avait 300 ans d'avance, de fait, dans la codification du français et la puissance d'un État. Et c'est là que c'est extrêmement ironique, si vous voulez, parce que le peuple du Nord, finalement, n'a pas vraiment le choix. Il n'a pas d'autre choix que de passer au français. Celui du Sud, en un sens, si. Comprenant très bien la différence entre patois et langue, et voyant le choix qui s'offre à lui, en termes de langue pour remplacer le patois, bah, il prend la proposition finalement la plus intéressante. Et une fois le français acquis, ou en cours d'acquisition, et ça a coûté cher en termes d'investissement, hein, je veux dire, c'est pas une mince affaire, je ne suis pas du tout en train de nier toute l'oppression linguistique par ailleurs. Mais pourquoi, une fois ce français acquis, acquérir une autre langue qui ressemble tant au patois sans les promesses de la langue, en fait? Une langue, finalement, au moment où le Félibrige a codifié sa langue, ben, le peuple en a déjà une, qui est le français. Et donc, je conclurai juste en disant, donc, je pense que le Félibrige a justement, parce qu'il n'a pas considéré cet écart ontologique, n'a pas été capable de voir pourquoi le peuple ne le suivait pas. Et que d'autres voies auraient peut-être été possibles, en tout cas c'est facile de le dire à 170 ans plus tard, mais là je pense à un article de Latour qui s'appelle « Il n'y a pas de monde commun, il faut le composer », et qui parle de traduction, justement, de traduction ontologique. Voilà. Bref, donc il me semble que c'est pour ça qu'on peut dire que le patois n'est pas une langue, et en disant ça, j'essaie absolument pas d'inférioriser quelque état de langue que ce soit, que c'est peut-être une question d'ontologie, que le terme est peut-être mal choisi, mais finalement, c'est un outil, et que c'est trop tard pour le sud de la France, mais il me semble intéressant de prendre ça en compte pour d'autres contextes mondiaux. Prenons, je sais pas, la Colombie, parce que j'ai eu un étudiant qui travaillait sur la Colombie, qui vient me voir en me disant, mais je veux travailler sur la politique du multilinguisme en Colombie. Justement, ce moment où je réfléchissais là-dessus, je lui dis, mais essaye de réfléchir à qu'est-ce que serait une politique linguistique en Colombie qui prendrait en compte des ontologies linguistiques non européennes, indigènes, etc. À quoi ça ressemblerait une politique linguistique dans laquelle on doit prendre en compte que le fait que vous avez des interlocuteurs non humains de toutes sortes. Voilà. Et je finirai là-dessus. Merci.